Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30, bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Emmanuel Macron s'adresse à Éric Zemmour à quelques heures de son déplacement à Vichy, le président de la République. Le président de la République à qui le dernier sondage qui donne Valérie Pécresse gagnante en 2022 n'a évidemment pas échappé. On va vous dire comment son entourage réagit. Le professeur Delfraissy n'exclut pas qu'on ait besoin un jour, à un moment donné, du une quatrième dose contre le Covid. En attendant, le variant Omicron semble moins dangereux que ce que l'on redoutait. On sera en direct avec le professeur Pittet dans un instant. Le nouveau chancelier allemand s'appelle Olaf Scholz. Il a été élu ce matin. Quel est son programme? On verra ça avec Helen Kohl à Berlin. On va parler également des Tuches 4. Le film sort aujourd'hui. Ça devrait être le succès des fêtes de Noël. Et puis le temps, la tendance avec vous Anissa Haddadi. Il y a tous les ingrédients de l'hiver aujourd'hui, hein.
Oui, on a de la neige en abondance, Romain, on a des pluies soutenues, du vent fort sur les côtes et des températures en baisse. C'est en effet un programme hivernal pour cet après-midi.
Merci Anissa, la météo complète dans un instant aux alentours de 12h55. À tout à l'heure. Europe 1. Le président de la République a donc tenu à s'adresser à Éric Zemmour sans prononcer son nom, bien sûr, sur France Bleu Auvergne-Rhône-Alpes. Et avant d'aller à Vichy, le chef de l'État a tenu à faire cette déclaration. Écoutez.
Vichy nous renvoie également à une histoire. Et je pense que à cet égard, il faut juste se dire que cette histoire, nous l'avons vécue. Elle est écrite par les historiennes et les historiens. Et c'est une bonne chose de s'y tenir. Et que je pense que l'histoire, nous gagnons à la respecter, à l'apprendre, à permettre à nos historiennes et nos historiens, sur la base de traces, de documents, de construire une vérité historiographique. Et gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir.
Voilà, le message est clairement adressé au candidat Éric Zemmour. Jacques Serret, c'est vous qui suivez ce déplacement pour Europe 1. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Le message vise le candidat de Reconquête, hein.
Oui, une réponse implicite, sans le nommer. Et on sent bien qu'Emmanuel Macron a envie d'attaquer celui qui est maintenant candidat à la présidentielle. Figurez-vous que la journaliste qui a effectué cette interview du président lui a posé une question relativement large sur Vichy. Je la cite, « Au-delà des polémiques, est-ce que Vichy est un symbole important pour vous ?» Dans sa réponse, c'est Emmanuel Macron lui-même qui vient sur ce terrain de la polémique lancée par Éric Zemmour. Jusqu'à présent, l'entourage du chef de l'État réfutait l'idée que ce déplacement à Vichy était une visite symbolique et très politique à 4 mois de la présidentielle. Finalement, Emmanuel Macron prouve l'inverse, comme s'il était bien décidé à répliquer coup pour coup à Éric Zemmour. Désormais, il ne l'ignore plus, manière également de le désigner comme un adversaire sérieux pour contrebalancer la percée de Valérie Pécresse.
Alors justement, Jacques, l'autre grosse actualité politique, c'est ce sondage qui donne Valérie Pécresse gagnante de la présidentielle. C'est un sondage Elab pour BFM et L'Express. Qu'est-ce qu'on en dit dans l'entourage du président de la République ?
Alors officiellement, on relativise, ce n'est qu'un sondage parmi tant d'autres. Ce n'est pas panique à bord dans la Macronie, mais tout de même, ce premier signal d'une dynamique Pécresse est pris très au sérieux. Symboliquement, ça fait descendre le président dans l'arène, à hauteur de candidat, analyse un ministre. Oui, c'est elle la plus dangereuse, admet un conseiller qui poursuit. Elle est plus dure à prendre, car elle n'est pas si éloignée de nous. Surtout, le temps des femmes est venu. Une remise en question, une prise de conscience que le match n'est pas forcément gagné d'avance. À 4 mois de la présidentielle, la bataille de 2022 commence peut-être réellement maintenant.
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. Il est 12h34.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
L'épidémie de Covid, avec cette déclaration du professeur Delfraissy ce matin, le président du conseil scientifique qui estime qu'à un moment donné, on aura peut-être besoin d'une quatrième dose de vaccin. On est en direct avec le professeur Didier Pittet. Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. On a besoin de vos lumières. Vous êtes épidémiologiste, évidemment, chef du service de contrôle des infections aux hôpitaux universitaires de Genève. Qu'est-ce que vous en dites? On y va vers cette quatrième dose?
Oh, écoutez, ce que Jean-François Delfraissy a dit, c'est qu'on en aurait peut-être besoin un jour. Ouais. En attendant, je pense qu'il faut que nous ayons à la dose de rappel, qu'on appelle aussi troisième dose, qui est fondamentalement importante, et puis que nous respections au mieux les mesures barrières, les consignes qui sont recommandées pour lutter contre Delta, parce qu'actuellement, nous sommes à lutter contre Delta et contre l'impact de cette cinquième vague.
Oui, vous dites que l'urgence, c'est Delta. Mais sur la quatrième dose, est-ce qu'en réalité, il n'y aura pas une quatrième, une cinquième, une sixième, une dixième dose et que voilà. Le Covid va devenir une maladie chronique?
Alors, pour l'instant, on ne peut pas le dire, mais bien entendu que le Covid deviendra, fera partie de ce qu'on appelle notre microbiome. On vivra avec ce virus, comme on vit avec les trois autres très grandes familles, quatre autres même très grandes familles de coronavirus avec laquelle nous vivons depuis des centaines d'années. Et un jour, il fera simplement partie des petits rhumes que nous faisons à l'automne quand nous allons voir nos petits-enfants, ces nez qui coulent. Et voilà, on n'en est encore pas là parce que l'immunité globale dans la population est encore insuffisante et en particulier parce que la couverture vaccinale doit encore être améliorée, doit inclure une dose de rappel, parlons donc de cette troisième dose, et puis nous verrons effectivement si à l'occasion, dans les mois qui suivent ou dans les années qui suivent, il faudra une quatrième dose possible. Mais ça dépendra tout de l'évolution de la pandémie, et personne ne peut le dire encore aujourd'hui.
Professeur, je voulais vous entendre également sur les dernières déclarations de l'OMS, du chef, du responsable des urgences à l'Organisation mondiale de la santé. Des déclarations qui semblent plutôt rassurantes quant à la dangerosité du variant Omicron. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Oui, alors rappelons-nous, quand on juge d'un variant, il y a trois éléments clés. D'abord, sa capacité de transmission, soit de contagion, c'est-à-dire est-ce qu'il est très ou peu contagieux. Deuxièmement, la capacité d'entraîner des infections graves et donc des hospitalisations et des décès. Et troisièmement, la capacité d'échapper éventuellement à l'immunité, qu'elle soit naturelle ou suite au vaccin. Alors, effectivement, le variant Omicron est plus capable d'être transmis. Il a un taux de transmission plus élevé que Delta, qui lui-même avait des taux de transmission plus élevés. Par contre, donc il est très contagieux. Par contre, il serait, pour l'instant les données sont encore préliminaires, moins capable d'entraîner des infections graves, en tout cas aujourd'hui, en Afrique du Sud, là où il a été identifié dans une phase en creux de vague, si je peux appeler cette situation pour l'Afrique du Sud aujourd'hui. Donc voilà, oui, c'est peut-être une information rassurante. Quant à l'échappement immunitaire, pour l'instant, les données de laboratoire sont encore incertaines et il convient que nous en ayons l'information au cours des prochains temps, ainsi que des données cliniques sur le fait de, effectivement, cette possibilité d'échappement vaccinal ou immunitaire, pour lequel, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations.
Merci beaucoup, professeur Pittet. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. En attendant la quatrième dose, il y a la troisième, la dose de rappel. Et on va à Bordeaux, où ouvre un centre de vaccination sans rendez-vous. Alors ça, c'est très pratique. Stéphane Place, en direct avec nous depuis Bordeaux. Bonjour Stéphane.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Ça se passe dans un centre commercial, expliquez-nous.
Oui, on est entre un magasin de jouets et une boutique de maquillage. C'est là que s'est installé ce matin ce centre de vaccination, un local de 300 mètres carrés, mis gracieusement à la disposition des infirmières et des médecins. Quatre box devant moi, une file d'attente d'une demi-heure environ pour recevoir cette dose de Moderna. Et c'est bien ce qui ravit ces deux retraités, sans rendez-vous au cœur de Bordeaux.
Il y a une campagne médiatique énorme, notamment gouvernementale, pour qu'on se fasse vacciner et qu'on nous menace de supprimer le pass si on n'a pas le troisième vaccin. Et il est impossible d'avoir des rendez-vous à moins de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ben, on a profité de l'aubaine, c'est très bien.
On n'arrivait pas à trouver de rendez-vous, on voulait se faire la troisième dose et il n'y avait pas moyen.
Le fait que ça soit sans rendez-vous pour le coup ?
Ben oui, et puis rapide et pas de souci.
Et ce centre sans rendez-vous est ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h. Bénédicte Motte est la directrice départementale de l'Agence régionale de santé.
Il y a un Girondin sur deux qui se fait vacciner aujourd'hui chez son médecin traitant, dans une pharmacie de proximité ou dans un centre de vaccination. Pour compléter ce dispositif, on ouvre deux dispositifs éphémères dans des centres commerciaux. Là, on va faire 500 vaccinations par jour. On va le faire au moins jusqu'aux vacances de fin d'année.
La semaine dernière en Gironde, Romain, un peu plus de 80 000 injections ont été réalisées, dont plus de la moitié, c'est important, par des médecins de ville, des infirmières ou encore des pharmaciens, sans oublier les 130 doses injectées depuis l'ouverture de ce centre de vaccination sans rendez-vous, ici au centre commercial de Mériadec.
Merci beaucoup Stéphane Place, c'est vraiment une très très bonne initiative, il faudrait les multiplier, ces centres sans rendez-vous, ça permettrait à nombre de Français, de patients, d'aller se faire vacciner très, très rapidement. Merci Stéphane. Notez par ailleurs, ça a été décidé ce matin au Conseil des ministres, j'entends la petite musique, mais j'ai encore une information, la France interdit de danser danser dans les bars et les restaurants pendant un mois. Il s'agit d'empêcher ces établissements de se transformer en discothèques et de leur faire de la concurrence alors que les boîtes de nuit sont, elles, obligées de fermer. Donc, interdiction, soyez prévenus de danser dans les bars et les restaurants. Voilà, il est 12h40, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va tout vous dire sur le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Olaf Scholz, c'est le nouveau chancelier allemand. On apprend à l'instant qu'il sera en visite officielle à Paris et Bruxelles vendredi prochain. Olaf Scholz, c'est le nouveau chancelier qui remplace donc Angela Merkel. Il a été élu ce matin par le Bundestag. Il a 63 ans. Il va diriger l'Allemagne pendant 4 ans, si la coalition tient évidemment. Hélène Kohl en direct de Berlin avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il va faire pour l'Allemagne ?
Alors, c'est le 9e chancelier de l'Allemagne, seulement le 4e social-démocrate, mais ce qui est historique, c'est la majorité qu'il a rassemblée derrière lui, une alliance inédite avec les Verts et les Libéraux. C'est une coalition de projets qui s'est mise en place bien plus vite que prévu. C'est un peu une surprise, Olaf Scholz a fait preuve d'un vrai leadership ces dernières semaines. Il a réussi à monter une équipe soudée et efficace, et on n'est pas du tout dans l'idéologie. Les partenaires de gouvernement ne partagent pas forcément la même vision du monde, mais ils sont d'accord pour mener, tambour battant, des réformes urgentes, et c'est un chantier à long terme, qu'il s'agisse de la décarbonisation complète de l'économie, la requalification professionnelle de centaines de milliers de salariés, la numérisation de l'administration, la construction de 400 000 logements par an. Hier, Olaf Scholz a signalé qu'il espérait que sa coalition dispose de 2 mandats pour mener à bien ces projets qui sont absolument titanesques.
Merci beaucoup, merci Hélène Kohl, en direct de Berlin. Il est 12h44, on va parler des fêtes pas comme les autres, on va partir à Rungis. Qu'est-ce qu'on va mettre sur notre table pour Noël et surtout à quel prix ? Entre la hausse des prix du transport, de l'énergie, des emballages, mais aussi les querelles de pêcheurs à cause du Brexit, ou encore la baisse de la production de volailles et de foie gras, il faut s'attendre à un budget plus élevé pour les repas de fête, comme l'a constaté Maud Descamps du service économie d'Europe 1 dans le plus grand marché du monde, le Mine de Rungis.
Forêt de canard, chapon, dinde, poularde.
Sur les étals de Gino, surnommé le roi de la volaille, les produits de fête sont là, mais il va falloir bien gérer les stocks.
Alors, forêt de canard, en fait, c'est un vrai sujet parce que c'est pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde. Problématique de production, on a eu la grippe aviaire en début d'année. Le temps de relancer tout le modèle et voilà, le temps, c'est un peu compliqué.
Moins d'offres, plus de demandes, il faut donc s'attendre à une montée des prix, une problématique que les grossistes en poissons comme Franck connaissent aussi.
Il y aura à peu près 10-15% d'augmentation. C'est dû qu'il y a très peu de pêche. Le mauvais temps, enfin, c'est combiné. Puis l'histoire des Anglais, ça fait pas du bien parce que tous les produits style crustacés, langoustines, tout ça, ça vient de là-bas maintenant. Il y aura un problème d'approvisionnement, je pense.
Et puis, il y a les annulations d'événements cascades chez les traiteurs et les restaurateurs plus prudents cette année dans leurs commandes, constate Xavier.
On a baissé un peu en quantité. On pense que les restaurateurs vont lever un peu le pied, justement pour ne pas perdre autant de marchandises qu'ils ont perdu l'année dernière et l'année passée. À mon avis, ça va être compliqué cette année.
Une fin d'année compliquée aussi pour le consommateur qui devra peut-être réduire les quantités ou opter pour des produits moins chers à mettre dans son assiette.
Voilà, Maud Descamps à Rungis, 12h45. À propos de foie gras, la mairie de Lyon confirme l'interdiction du foie gras dans les réceptions officielles. Interdiction, on ne servira plus de foie gras dans les réceptions officielles. À Lyon, c'est déjà le cas, à Strasbourg. Tiens, ce commentaire de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, qui tweete « Landaise que je suis, ça me gave ». Voilà, en clair, la ministre n'est pas contente, elle est en colère contre cette décision de la mairie de Lyon d'interdire le foie gras dans les réceptions officielles. C'est vrai que c'est dommage, c'est délicieux le foie gras. Allez, on va parler à présent de cette tribune dans le Figaro ce matin. Une centaine de signataires pour cette tribune pour sauver l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Pour en réalité conserver le Notre-Dame de Viollet-le-Duc et contre ce que prévoit de faire le diocèse de Paris. Parmi les signataires, il y a Anne-Isabelle Moutet. Bonjour Anne-Isabelle Moutet. Vous êtes éditorialiste.
Bonjour, je suis Anne-Elisabeth.
Anne-Elisabeth, mais oui, qu'est-ce que je dis ? Anne-Isabelle, Anne-Elisabeth, bien sûr. Moutet, éditorialiste, bonjour, Daily Telegraph. Qu'est-ce que prévoit de faire le diocèse de Paris qui nécessite cette mobilisation ? Dites-nous.
Eh bien, le diocèse de Paris a pour projet de faire ce qu'ils appellent un parcours catéchuménal à l'intérieur de la cathédrale, de façon à expliquer aux 12 millions de touristes, avec des animations, des projections de mots en différentes langues sur les parois de la cathédrale, des phrases qui devraient essayer d'expliquer ce que c'est que le catholicisme. Mmh. Et c'est quelque chose qui a sûrement sa place dans un musée. Il y a d'ailleurs en ce moment une rénovation complète de l'Hôtel Dieu à côté. Ce serait un très bon endroit pour qu'une partie soit transformée en musée, pour que les touristes aient une idée de ce qui se passe dans la cathédrale. Mais essentiellement, il y a eu un très bon article bien informé, même s'il était plutôt favorable à ces changements, dans Le Monde il y a quelques jours, qui disait que c'était une bonne occasion, qui citait des partisans de cette réforme en disant que c'était une excellente occasion de changement, et un historien de l'art qui avait été consulté disant que ce serait une capitulation si on refaisait l'intérieur de Notre-Dame à l'identique. C'est un incendie qui a été vécu par les Parisiens, par les Français et d'ailleurs par le monde entier comme étant une blessure et un accident horrible. L'idée de dire que c'est une bonne occasion est un peu choquant, et l'idée de faire essentiellement quelque chose qui va être le catholicisme pour les nuls à l'intérieur d'une église où se sont accumulées pendant 800 ans les œuvres d'art successives, les périodes
Vous dites
successives.
qu'il faut refaire à l'identique et qu'on ne cherche pas à faire des expériences. Bon, que dit le diocèse de Paris pour le moment ?
Le diocèse de Paris a l'air de dire pas grand-chose, parce qu'il y a demain, 9 décembre, une réunion de la commission des bâtiments du patrimoine historique. Mmh. Et toutes sortes de gens vont être en présence, parce qu'il n'y a pas que le diocèse de Paris qui est concerné. Il y a la présidence de la République, il y a le ministère de la Culture. Enfin, il y a toutes sortes d'opinions contradictoires. Mais je pense que les gens qui ont assisté à l'incendie de Notre-Dame ne pensaient pas que ce serait pour qu'ensuite on décide de moderniser à l'intérieur. Il y a des expressions de mépris pour le travail qu'a fait Viollet-le-Duc en 1841, alors que ça fait partie de notre histoire. Cette cathédrale qui est ensuite décrite par Victor Hugo, tout ça, c'est quelque chose qui s'est accumulé comme des strates, qui sont toutes des choses historiques. L'idée qui consiste à dire qu'on va maintenant laisser le choix à des explications extérieures au lieu de laisser la cathédrale, cet monument extraordinaire, parler d'elle-même, ça paraît quelque chose d'absurde et franchement de pas nécessaire.
Encore vous dites une fois, il y a plein d'endroits dans Paris où... Oui, conservons le Notre-Dame, enfin l'intérieur de Notre-Dame conçu par Viollet-le-Duc. Merci beaucoup.
Et par tous les bâtisseurs de cathédrales avant, parce que Viollet-le-Duc n'avait pas tout changé du tout.
Merci beaucoup Anne-Elisabeth Moutet, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. 12h50 dans un instant, on va au cinéma pour Les Tuches 4, ça sort aujourd'hui. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h52, on part au cinéma, c'est l'événement ciné du jour, la sortie des Tuches, numéro 4, Jeff et Cathy Tuche en grande forme, ils ont monté une entreprise. On écoute d'abord un extrait, il est question du beau-frère joué par Michel Blanc, écoutez.
C'est le moment de préparer Noël en famille.
Moi ce qui se passe, moi je suis couru.
Je voudrais que ma sœur soit là aussi.
Le problème, c'est son mari, ce con de Jean-Yves.
Oh oui, oui, ça va. Vous voulez rabibocher les beaux frères ennemis?
Qu'est-ce que je disais déjà?
Mais moi, j'écoutais pas.
Ça va être long.
C'est des échos. Tu connais?
Tu connais.
De quoi?
De quoi?
Ah ok, j'y suis. Les échos, très drôles. Hein.
Très drôle.
Voilà, c'est un film, c'est de l'humour populaire. Jean-Paul Rouve qui joue évidemment Jeff Tuche et Cathy Tuche qui est jouée par Isabelle Nanty. Nina Droff au Pâté Weppler, c'est un cinéma de la place de Clichy à Paris. Les fans ont répondu présents à la séance de 10h ce matin. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ?
Et oui, ils avaient déjà adoré les trois premiers et les fidèles de la saga n'ont pas hésité à rempiler une quatrième fois. Ils sont ravis de retrouver la famille Tuche au complet. Alexandre, étudiant, est sorti avec un grand sourire aux lèvres. Il a surtout apprécié de retrouver les personnages du premier film, celui qui a bercé son enfance.
J'ai vu le 1 quand j'étais petit. Je l'ai vu pas mal de fois, peut-être 10-20 fois. Il y a une référence au 1 avec le beau-frère de Jeff Tuche, Jean-Yves. Et la vanne m'avait bien fait marrer à l'époque, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Pour moi, c'est culte. Ouais. C'est familial et tout, donc ouais, c'est sympa quoi.
Sorti quelques secondes plus tard, Catherine confirme, le film ne sort pas de ses thématiques habituelles, mais reste un plaisir à regarder.
C'est un film de détente,
agréable à regarder, c'est sympa, c'est marrant, c'est divertissant. C'est juste pour se changer les idées.
Et d'après le guichetier, les tickets commencent déjà à partir pour la prochaine séance du film, prévue à 14h15.
Voilà, Les Tuches 4, donc ça sort aujourd'hui. Il y aura même Les Tuches 5 qui devrait sortir en 2024. Il est 12h54, soirée spéciale ce soir sur Europe 1. Lille affronte Wolfsburg à 21h. En jeu, une place en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, les Lillois devront gagner ou faire match nul. Cyril de la Morinerie, vous êtes déjà sur place. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Comment ça se présente?
Bah écoutez, ça se présente fraîchement. Ça se présente franchement, il fait à peine 2 degrés ici en Basse-Saxe. Hein. Je suis venu avec tout mon attirail, les bonnets, etc. Il faudra prendre aussi des currywurst,
oui,
et des frites. Voilà, parce que je suis à côté de ce stand pour nous réchauffer. De la neige même pourrait tomber ce soir à Wolfsburg, hein, ville située à 80 km de Hanovre et à 200 de Berlin. Alors dans cette cité de 120 000 habitants, eh bien, c'est là que se trouve le siège de Wolfsburg, de Volkswagen. Un partenariat existe avec le club allemand depuis 2001, mais la marque automobile secouée par le Dieselgate a réduit ses investissements dans le football. La formation allemande de l'ancien Stéphanois Guy Lavoggi est à la peine 8e seulement de Bundesliga. C'est donc le bon moment de les affronter. Les Lillois n'ont besoin que d'un nul, vous l'avez dit, pour se qualifier. Mais l'entraîneur nordiste Jocelyn Gourvennec, lui, n'est pas frileux.
J'ai pas envie qu'on soit dans le calcul, j'ai pas envie qu'on soit dans la gestion. J'ai envie qu'on se focalise sur le match qu'on a à jouer, faire un gros match avec grosse force collective. C'est ça le plus important et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer.
Alors, match qui se déroulera ce soir dans une atmosphère feutrée au Volkswagen Stadion en raison d'une flambée des cas de Covid-19. Bien, la capacité du stade est réduite à 30%. Les autorités allemandes n'ont pas autorisé les 1500 fans lillois qui souhaitaient encourager leur équipe à venir ici outre-Rhin. Mais les coéquipiers de Jonathan David sont déterminés à écrire une nouvelle page de l'histoire du LOSC.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, soirée spéciale donc sur Europe 1 ce soir entre 20h et 23h30. Le temps tout de suite avec vous Anissa Haddadi, temps très perturbé sur la moitié sud. Hein.
Oui, avec des pluies importantes hein, sur les Alpes. D'ailleurs, la limite pluie-neige va s'abaisser cet après-midi avec des flocons à partir de 500 mètres. Attention en haute montagne, hein, dans les Alpes, on a un risque d'avalanche assez important. La pluie va se calmer en Provence et sur la Côte d'Azur, mais le vent souffle toujours en Méditerranée et sur le Languedoc-Roussillon jusqu'à 90 km/h. Dans le sud-ouest, là, on garde un ciel chargé cet après-midi avec des averses fréquentes. Entre la Vendée et les Landes, on a des orages qui éclatent sur le littoral avec même des averses de grésil. Au nord de la Loire, le temps est bien plus calme, avec du vent d'ouest qui souffle toujours sur les côtes de la Manche, mais sur le centre-Val de Loire, le bassin parisien et les Ardennes, nous avons cet après-midi des éclaircies qui sont nombreuses, c'est là que la journée est la plus agréable. Les températures sont en baisse cet après-midi, 4 degrés à Aurillac, 5 à Saint-Etienne, 8 degrés à Quimper, Toulouse et Paris, 10 degrés à Cherbourg et Biarritz, 11 à Nîmes et Montpellier, 13 degrés à Marseille et 16 pour Ajaccio et Bastia.
Merci beaucoup Anissa, il est 12h57, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi, dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bon après-midi sur Europe 1, à demain.